Romains chapitre 12, verset 20. Je ne sais pas si vous avez déjà fait réfléchir à ce verset. Moi, j'ai entendu toutes sortes de bêtises là-dessus, jusqu'au jour où j'ai entendu ce que ça signifiait vraiment. Romains chapitre 12, verset 20. C'est un comportement que nous devons avoir par rapport à nos ennemis. Alors, à combien plus forte raison, nos frères. Romains chapitre 12, verset 20. Vous comprendrez, parce que ce verset, je sais que plein de chrétiens, même chez nous, ne le comprennent pas. Romains chapitre 12, verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Et je vous dis ça, dernièrement, j'ai entendu un pasteur qui a prêché sur la dernière partie de ce verset, et ça m'a fait pitié, vraiment, pitié. Je vais vous expliquer ce verset. Aujourd'hui, on a les allumettes, les briquets, les allumages électroniques, tout ce que vous voudrez. N'oubliez pas qu'il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, ces choses n'existaient pas. Il n'y avait pas de briquets et d'allumettes. Écoutez bien, mes frères et sœurs, écoutez bien. Lorsque les gens se chauffaient, c'était par le biais de la cheminée, les foyers. Tout le monde avait dans sa maison un foyer, une cheminée. Et il arrive, comme certains ont dû le vivre, que parfois, le matin, il n'y a plus de braise. Ça arrive, ça. Il y a de la braise, hop, quelques brindilles, on souffle dessus, ça dépend du tirage. Et ça arrive que le matin, il n'y a plus de braise. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait partir chez un voisin, avec une coupelle. Vous savez que les gens en Orient trimballent tout sur la tête, vous savez? Donc, ils prenaient une coupelle, en métal ou autre, et ils allaient chez le voisin chercher des braises. Et ils revenaient avec ces braises sur la tête. Donc, ils pouvaient remettre le feu à leur maison pour la nourriture et pour se chauffer, etc. Vous comprenez la signification de ce verset? Parce que moi, j'ai entendu une ânerie, mais vraiment une ânerie. La volonté de Dieu, c'est de bénir même nos ennemis qui repartent avec le feu pour pouvoir refaire de la nourriture, pour pouvoir se réchauffer. C'est important, la cheminée. À cette époque-là, vous ne croyez pas que c'est important? Nous, on ne comprend pas toujours, mais je voudrais vous le dire, parce que là, la semaine dernière, j'ai prêché sur l'importance d'avoir le feu, d'entretenir le feu, mais combien repartent avec le feu sur leur tête et le ramènent dans leur maison pour que leur foyer soit tout à nouveau réchauffé. Vous avez compris l'idée? Est-ce que vous avez compris l'idée? C'est important. Et si nous vivons ce que nous allons partager ce matin, nous repartirons à la maison avec sur notre tête, dans notre cœur, ce feu que Dieu veut que nous ayons. Beaucoup de gens sont réchauffés pendant les réunions, les cantiques, la communion fraternelle, la Sainte Cène, la prédication, tout cela réchauffe nos cœurs. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut repartir avec le feu. Vous voulez, vous imaginez-vous, vous préféreriez l'hiver, quand il fait moins 20 dehors, être dans une maison glacée, froide, ou avec un beau feu de cheminée à côté? Franchement, qu'est-ce que vous préférez? Bien sûr. Et c'est cette image-là que notre ennemi, on doit lui donner la possibilité de se réchauffer. On doit lui redonner des braises. Alors, qui ce matin va repartir? Parce que c'est un acte de foi. Ça ne dépend pas que de moi, bien sûr. Je sais que la façon de jeter la semence dépend de moi. C'est écrit. Bon, je ne vais pas parler là-dessus. Mais la façon dont vous le recevez dépend de vous. Recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous. À moi d'avoir le feu, à vous de le prendre. Alors, il y a plusieurs histoires qui me sont venues à l'esprit pour préparer cette réunion. Je sais que ce matin, certains vont être touchés par Dieu. Et je n'ai pas comme on dit, excusez-moi l'expression, m'intéresse à me louper dans ce que j'ai à vous dire. Dans le deuxième livre de Samuel, il nous est parlé de David. Vous savez qu'il nous est très souvent parlé de David dans la Bible. Vous avez remarqué ? David, qui traverse telle vallée, la vallée des Réphaïm, c'est la vallée des géants. Il n'y en a pas les vallées dans la Bible, c'est l'image de toutes les expériences qu'on traverse. On en traverse des expériences. La vallée, vous la connaissez, la plus connue. La vallée de l'ombre de la mort. La vallée d'Achor, la vallée des pleurs, etc. Il y a plein de vallées qu'on doit traverser. On n'est pas que sur les montagnes. C'est bien les montagnes, les expériences. Mais des fois, on est dans la vallée. Et il arrive à des moments qu'on ait besoin de comprendre certaines choses avant de les vivre. Parce qu'il y a des choses, c'est comme ça, l'être humain est fait, qu'il ne va pouvoir vivre certaines choses que s'il les comprend. Alors dans 2 Samuel au chapitre 21, il y a encore une guerre. Ah bon. 2 Samuel chapitre 21, verset 15. Encore une guerre, c'est bizarre. Lisons ensemble s'il vous plaît. Ces choses-là, elles n'ont pas été écrites pour les enfants à l'école du dimanche. Vous savez, il y a des animateurs, ils s'imaginent que ces histoires-là, c'est pour les enfants de l'école du dimanche. Elles n'ont pas été écrites pour les enfants. Aussi pour les enfants. Elles ont été écrites pour que nous nous identifions à ces choses et que nous vivions quelque chose. De Samuel, chapitre 15, chapitre 21, verset 15. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Attendez, on va juste avant, que je ne me trompe pas. Oui, on va aller dans 2 Samuel. Tant pis, on saute, on va revenir de suite dans 2 Samuel 21. Mais regardez le chapitre 17. Comment il y en a un qui était bon. Il y en a un qui est fort, croyez-moi. Il fait partie de ceux qui se sont suicidés dans la Bible. 2 Samuel chapitre 17. Verset 1er. Achipotel, c'était un chrétien. Hein? Achipotel dit à Absalom, « Laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me lèverai, je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. » Vous voyez, ce n'est pas nouveau d'attendre d'être fatigué. Verset 16 du chapitre 21. Excusez-moi, j'y reviens, c'est volontaire. C'est pour que vous compreniez que l'ennemi, il sait comment faire. Jisbi Benod, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain. Il était saint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tseruya, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Ainsi, les gens de David jurèrent en lui disant, « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » Il y eut encore, après cela, une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibekai, le Houchatite, tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elkanan, fils de Jaré Oregim, de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouvait un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Shiméa, frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David, on pourrait dire surtout par la main de ses serviteurs. Amen. Je voulais prendre d'autres textes sur le fait qu'on peut être faible, très faible, mais que Dieu a le pouvoir de nous fortifier, le pouvoir de nous affermir. Dieu veut nous affermir. Je ne sais pas ce matin s'il y a quelqu'un de faible, d'affaibli, je ne sais rien. Mais tous les textes bibliques sont clairs. Dieu nous fortifie. On l'a chanté, Jésus fortifie nos cœurs. Bon, je ne vais pas prendre ces textes, vous les connaissez, ça aurait été bien, mais je veux qu'on ait du temps pour la prière, je le veux. Parce que je sais que c'est important, c'est prioritaire. Ma maison, ce ne sera pas une maison de prédication, ma maison, ce sera une maison de prière. La prière, c'est quelque chose de vital. On doit aimer la prière. On doit l'aimer. Si vous ne l'aimez pas, suppliez Dieu, parce que c'est un combat. Suppliez Dieu de l'aimer. Vous avez remarqué, David était fatigué. Ça peut arriver, ça, d'être fatigué? Ouais. Vous avez vu Achipotel? Vous lirez la suite. Il faut, parce que moi, je prends un verset pour vous expliquer un sujet. Mais lisez, lisez, et vous verrez comment l'ennemi l'est rusé. Nous, on croit qu'on a le discernement et qu'on est susceptible de voir toutes les ruses de l'ennemi. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, je pense qu'on est loin, loin de s'imaginer combien l'ennemi l'est rusé. Alors, le conseil d'Achipotel, c'est le conseil du diable qui doit régulièrement dire à ses démons, attends qu'il soit fatigué et tu l'auras au tournant. Combien de nos frères et sœurs devraient être ce matin dans des églises ? Et n'y sont pas, pour la simple et unique raison que le conseil d'Achipotel a marché. Le mauvais conseil, bien entendu. Les ruses du diable, il y en a partout. Je pense, tiens, au début de la royauté de Saül, quand il était bien, quand il était bien. Il y a une tribu, je crois que c'est la demi-tribu de Manassé, ils se sont isolés. Écoutez bien, c'est pour que vous compreniez. C'est un truc de fou, de fou. Ils s'isolent. Et tout d'un coup, Nakash, l'ammonite, va trouver le responsable de la tribu, de la demi-tribu, et il lui dit, traite alliance avec nous dans une semaine. Sinon, on vous crève à tous l'œil droit. Vous connaissez cette histoire? Vous la connaissez? Est-ce que vous la connaissez? Levez la main ceux qui ne la connaissent pas. Ceux qui ne la connaissent pas. Oui, il y en a pas mal. Mais je pense que ça vaut la peine. Écoutez, on va le lire. Il faut le lire. Il faut lire ces choses. Je pense, mes frères et sœurs, lisez l'Ancien Testament. Lisez-le. Les gens, ils disent, j'y comprends rien. Eh bien, lisez, relisez-le. Regardez un peu ce texte. 1 Samuel, chapitre 11. Mais regardez, il faut que vous compreniez que le diable, il veut une chose, c'est nous aveugler. Même si vous avez 10 sur 10 à chacun de vos yeux, laissez-moi vous dire que je parle de la vue spirituelle. Il y a une vue spirituelle. La Bible souvent parle des yeux du cœur. 1 Samuel chapitre 11 verset 11. Chapitre 11 verset 1er. Nakash, donc Nakash ça veut dire le serpent. Voyez, à qui on en fait. Hein? Le serpent, l'ammonite, vint assiéger Yabès en Galaad. Tous les habitants de Yabès, dira Nakash, traite alliance. Non mais regardez un peu, vous êtes, traite alliance avec nous. Le peuple de Dieu qui dit à son ennemi, ils ont peur, ils ont peur. Traite alliance avec nous, nous te servirons. Vous allez me dire, non mais monsieur, vous rigolez. Vous croyez qu'il y a des chrétiens qui peuvent faire alliance avec l'ennemi? Et nous te servirons. Mais Nakash, l'ammonite, leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit. Vous rendez compte? Et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Les anciens de Yabès lui dirent, accorde-nous une trêve de 7 jours afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. Bon, l'histoire s'est bien terminée parce que Saül allait bien à l'époque. Donc il a fait ce qu'il fallait. Mais l'œil droit, spirituellement, c'est l'œil de la vision. L'œil gauche se cache derrière le bouclier, on a affaire à des soldats. Alors tout ça c'est un peu technique, mais il faut que vous compreniez bien l'enseignement, c'est comme l'histoire de la coupe sur la tête. Il faut que vous compreniez, l'ennemi, il veut faire une alliance avec nous, pour qu'on n'ait pas de vision. Et qu'on soit nul, inutile dans l'œuvre de Dieu. Dans l'histoire qui nous préoccupe, qu'est-ce qu'on voit? On voit David qui a vécu des expériences seul, tout seul, et elles sont normales, les expériences qu'on vit seul. Mais il est impossible qu'un chrétien se contente d'expériences individuelles. Quand il a tué Goliath, il était tout seul. Tout le monde était découragé, premièrement, c'est clair, tout le monde était découragé, même le roi. Et il a fait une expérience parce qu'il était en communion avec Dieu, il avait la pensée de Dieu, et il a pu tuer Goliath, pas parce qu'il était un guerrier, parce que c'était un jeune homme qui était dans la volonté de Dieu, et qui a tué avec une arme qui n'en était presque pas une. Il a fait une expérience seul, et certainement que les amis de... Vous savez, cette histoire, je l'ai méditée toute la nuit. Toute la semaine. Et certainement que peut-être même ces guerriers qui sont là à côté de lui, lorsqu'il est fatigué, lorsque 30 ans ont passé, ou 25. Mais mes frères et sœurs, il y a des combats. Il y a des combats qu'on peut mener seul, qu'on doit mener seul. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des combats, ils sont collectifs. Et l'Église, si Dieu a créé l'Église, ce n'est pas pour rassembler des gens le dimanche matin. Si Dieu a créé l'Église, c'est pour qu'il y ait des hommes qui aient compris ce qu'était le règne de Dieu. Parce que franchement, on chante des trucs de fou. Le 55 qu'on a chanté dans le cœur. Je vis et je règne avec lui. Ah ouais? Je règne avec le Seigneur? Vous l'avez chanté, ce beau cantique? Je vis et je règne avec lui. Mes frères et sœurs, je pense que, je l'ai dit, je le redis pour déculpabiliser certains, je pense que l'œuvre de Dieu ne s'est pas faite comme elle aurait dû se faire à cause des pasteurs. C'est biblique ce que je vous dis. Les pasteurs n'ont pas été sérieux, ils n'ont pas eu la pensée de Dieu. Les belles prédications, oui. La pensée de Dieu, non. Les belles prédications, je l'ai dit, je le redirai, ça ne sert à rien. La pensée de Dieu, croyez-moi, c'est autre chose. Et l'œuvre de Dieu a été fragilisée, pénalisée, parce que les gens n'ont pas compris ce que l'on chantait déjà. Je vis et je règne avec lui. Vous voyez ce verset-là? Les charbons ardent sur la tête. Il dit, comment ça se fait? On va esquinter nos ennemis, on va leur brûler la tête. Vous voyez dans la bouche de Jésus, vouloir faire du mal à quelqu'un, vous avez compris l'importance de ramener le feu à la maison. Il y a quelqu'un qui veut ramener le feu à la maison? Peut-être que votre maison, elle est dans la froideur, je ne parle pas du mobilier, que vous soyez propriétaire ou locataire, je m'en fiche complètement. Mais peut-être que votre maison est dans une froideur pas possible, spirituelle. Alors si moi je dois, si nous, vous et moi, nous devons bénir notre ennemi, à combien de fortes raisons nos frères et sœurs? Oui ou non? Et tout à l'heure, on va prier. Les frères vont venir, Janson, Monsieur Blanc, Jonathan, Monsieur de Dieu, etc. Moi, je vais venir avec vous. Qui va prendre ce feu et dire, je le veux? Parce que le feu, le petit bol en terre ou en cuivre ou en laiton ou en fer, il ne venait pas tout seul à la maison. Il y a un acte de foi. Il vous sera fait selon votre foi. Il n'est pas écrit, il vous sera fait selon la belle prédication. Il vous sera fait selon votre foi. Et vous devez pouvoir dire, mais oui, où j'en suis de mes combats individuels, de mon culte personnel, de ma vie individuelle. Parce qu'on a une vie individuelle. Et où j'en suis de ma vie, de mon combat collectif. Parce que heureusement, ce jour-là, que David avait ses amis. Et c'est ça l'Église, c'est qu'on doit être des amis. Oui ou non? Pas des copains. Des amis, oui ou non? Je dois pouvoir dire à Jérémy, prie pour moi. Ce matin, plusieurs m'ont demandé, est-ce que ça va? J'ai dit, non, je suis fatigué. Ça tombe bien. Et je suis fatigué. Ça m'est égal en plus. Ça m'est égal. Ça m'a joué des tours, mais ça m'est égal. Parce que je fais la différence entre la fatigue physique, la fatigue psychique, la fatigue spirituelle, la fatigue intellectuelle. Tout ça, c'est un peu compliqué, mais il faudrait arriver à discerner. Mais la question que je ne voudrais pas que vous preniez mal tout ce que je suis en train de vous dire, parce que je pense à 80% que la fragilité, je le répète, du royaume de Dieu vient de ce que les pasteurs, à la place d'être des hommes de Dieu, nous sommes des hommes orchestres, des secrétaires qui faisons plaisir à tout le monde, ça fait qu'on n'a pas de temps de se tenir devant Dieu, point. Donc rassurez-vous que personne ne se dise ce matin on va se faire souffler, non, on ne va pas se faire souffler. Il y a pas, ça n'existe pas, ça. On a un Dieu qui veut nous parler, qui parle. Amen. Oui, il y a des combats individuels. Il y a des combats, vous pouvez les mener seuls. Vous les mènerez seuls. Merci Seigneur. Et j'espère que ces combats individuels feront que vous serez des bénédictions pour les autres. Car si je pense que c'est Abishai et tout ça, ses amis... Il devait y être, il y a de très très fortes chances, puisque David était très jeune lorsqu'il a combattu Goliath, donc ça tiendrait debout que ces soldats, ces vaillants hommes, était sur le champ de bataille dans la vallée de Hela quand David a tué Goliath. Et ils ont dû voir. Et là, David n'a pas fait le malin. Pas parce qu'on a eu des victoires aujourd'hui, il y a 20 ans, ou qu'on a fait, il y a 20 jours, qu'on doit dire « laissez-moi faire, je sais raccourcir les géants ». Je pense que si ce jour-là, David avait essayé, je pense que ça serait mal passé. Alors je vais vous poser une question. Je voudrais que vous répondiez au Seigneur, parce que moi je ne vais pas voir la réponse. Moi je ne vais pas la voir. Mais est-ce que Dieu va voir la réponse dans votre cœur? Est-ce qu'il va la voir, le Seigneur? Il va la voir. Dieu voit tout. Nous, on est un peu dépassés par ça, tant mieux. Mais Dieu, il voit tout. S'il y a 7 milliards 200 millions d'habitants sur la Terre, Dieu sait ce que pensent les 7 milliards 200 millions d'habitants. Point. Ça peut nous faire un peu mal à la tête. Mais c'est vrai. Pourquoi ces gens étaient là? C'est une question qu'on peut poser, non? On peut la poser aux stagiaires, pour la formation. Mais est-ce qu'on peut la poser à l'église aussi? Pourquoi ces 4 amis de David étaient là, avec lui? Ressemblons-nous, deuxième question, ressemblons-nous à ces 4 amis qui sont là, pour le roi? Parce qu'on a compris qu'il faut qu'il y ait un roi qui règne. Alors vous allez vite fait de dire, oui, mais il règne, Jésus règne de toute éternité. Oui, mais à qui a-t-il confié l'évangélisation et l'édification de son peuple, sinon à nous, ses enfants? Oui ou non? Les 4 évangiles, c'est Jésus qui fait le boulot, excusez-moi l'expression. Mais à partir du livre des Actes, c'est les chrétiens, remplis du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas nombreux, là, quand dans la vallée, les géants sont arrivés. Alors, troisième question, faites-vous partie de ces gens qui ont compris qu'il y a vraiment un combat spirituel? Est-ce que vous l'avez compris? Peut-être que pour vous, l'Église, c'est un, j'allais dire un club, une association de frères et sœurs sauvés par grâce, comme il y a l'association de la boule joyeuse des pétanqueurs de Ramonville. Tiens, nous, on a l'association chrétienne, ça fait même presque bien. Est-ce que c'est ça l'Église? Ou est-ce que ce sont des hommes, des femmes, qui, parce qu'ils se sont engagés, ont compris qu'il y a un combat et que notre roi, le Seigneur Jésus, doit régner? Et ce qu'ils avaient bien compris, c'est qu'il fallait que David continue de régner. Vous allez me dire, ouais, mais ça ne change rien au problème. Dieu règne. Vous croyez que Dieu règne dans les églises? Posez-moi la question. Répondez-moi, mais là, vous pouvez me répondre ouvertement, ce n'est pas grave si vous vous trompez. Est-ce que vous croyez que Dieu règne dans les églises? Moi, je pense que le Seigneur, il est dehors dans beaucoup d'églises. Et ce n'est pas un jugement que je porte, j'en ai plus mal au cœur qu'autre chose. Moi, je pense, comme il est dit dans l'église à la Odyssée, que Jésus se tient à la porte et il frappe, il attend. Et il ne règne pas, on l'a mis dehors. Vous me dire, oui, mais il est au milieu de nous. Oui, d'accord, vous inquiétez pas, il est partout, il est présent, il est omniprésent, ça ne change rien. Mais ce n'est pas parce qu'il est présent que ça va l'obliger à agir. Ces hommes ont compris l'importance du roi. Est-ce que nous avons compris que nous avons un roi qui veut régner dans l'Église? Parce que Dieu règne sur tout, sauf sur le péché. Vous le savez, ça? Enfin, quand même, si vous êtes ici depuis un moment, vous l'avez entendu. Dieu règne sur tout, sauf sur le péché. Et ces hommes, ces amis, et quand vous lisez la suite, quand David termine, regardez avec moi dans le chapitre qui suit, le verset 23, au chapitre 23, regardez bien, c'est très important, parce qu'on n'a peut-être pas compris l'importance d'avoir des amis spirituels dans l'Église, des frères qui vont vous redonner le feu. Regardez, 2 Samuel 23. C'est, moi, je voudrais vous aider. Je le demande aux stagiaires de faire gaffe quand vous lisez la parole, de réaliser. Regardez, 2 Samuel 23. Vous aviez déjà fermé votre Bible ? Voici les dernières paroles de David. Alors, eh ben, qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Tous les exploits qu'il a faits ? Non. Au verset 8, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait au verset 8 ? Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Il cite les frères en particulier, là dont on vient de lire les exploits. Et regardez le verset 39, qui c'est qui cite en dernier ? Franchement, je ne sais pas comment il était quand il a écrit le dernier verset. Enfin, il n'y avait pas les versets à l'époque. Uri, le Hessien. En tout, 37. Je ne sais pas s'il a pleuré en écrivant. Bon, je pense qu'il a dû l'écrire quand même. Vous connaissez l'histoire ? Je ne sais pas comment il a écrit ça. Mais il a quand même fait tuer cet homme. Qui était un de ces vaillants hommes. C'était pas... Il y a des gens... Alors, c'est vrai qu'on est tous égaux. D'accord. Je sais qu'on est tous égaux. D'accord. Mais aux yeux de Dieu, je pense qu'il y a des différences quand même. Dans le sens où il y a des gens qui sont plus utiles que d'autres. Vous êtes d'accord avec moi ? Je ne sais pas comment... Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait versé une larme, parce qu'il a souvent pleuré d'ailleurs, en écrivant Uri, le Hessien. Et il a dû se remémorer ce qu'il a dû faire dans une circonstance où il était dans une autre vallée. Alors c'est bien en même temps. En même temps, c'est bien de voir. Moi, ça me fait du bien de lire la vie de David. Je crois qu'il y a 40 livres sur 66 qui en parlent dans la Bible de David. Si je ne me trompe pas, à vérifier, mais je pense que c'est ça. Vous le voyez dans tous les cas de figure. C'est bien, non, franchement, pour nous. C'est pas bien ? Mais connaissez le Seigneur. Et cette affaire, vous voyez, il cite les dernières paroles, David. Il cite ses amis. Et ce matin, je voudrais que l'on soit dans ce même cas de figure. Dire, mais oui, il y a des chrétiens, mais je l'entends souvent. Moi, je prie chez moi, tout seul. Mais c'est bien. Pas besoin de prier avec les frères et sœurs. Chacun pour soi. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible, ça. Dans la Bible, c'est prier les uns pour les autres. Et les versets que je voulais prendre tout à l'heure, justement, dans les Romains, c'est des textes où il est dit de prier les uns pour les autres. Si vous n'aimez pas la collectivité, c'est vraiment pas un problème. C'est vraiment un problème. Moi, j'aime la solitude. J'aime vraiment la solitude. Mais je vous avoue que j'aime aussi les frères et sœurs, la communion fraternelle. Vous aimez la communion fraternelle ? Si vous n'aimez pas la communion fraternelle, faites-en un sujet de prière. Faites-en, je ne vais pas vous cracher dessus, vous rejeter. Faites-en un sujet de prière. Dites, Seigneur, apprends-moi à aller prier avec mes frères et sœurs. Mais peut-être que ça passe par cette compréhension de ces hommes qui étaient là, parce que croyez-moi, Gisbi Benod, vous voyez le nom de ce géant-là, le fils de Goliath, qui lui, il n'avait pas oublié ce que David avait fait à son père, parce qu'il y a des choses qu'on n'oublie pas. Gisbi Benod, il a attendu que le tueur, enfin le tueur, oui, de son père, soit fatigué. Le diable, il attendra. Est-ce que vous croyez que le diable, il sait ? C'est pour ça, mes frères et sœurs, que la Bible dit « Veille sur ton âme attentivement tous les jours de ta vie. » Gisbi Benod, vous prenez un dictionnaire, c'est pas... Aujourd'hui, c'est facile. Hein, prenez un dictionnaire biblique, tac. Franchement, ce que je vous dis, vous pourriez tous le dire. Gisbi Benod, ça veut dire « Il est patient. » Et croyez-moi, le diable, il est patient pour nous attendre au moment où on va être fatigué. Même Achipotel, vous voyez, Achipotel, le copain d'Absalom, vous avez vu comment il a dit « Attends qu'il soit crevé. » Mais quand on est fatigué, c'est, je crois que c'est là qu'on a le plus besoin de communion fraternelle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigué et chargé. Combien de fois, mais les gens, l'aveuglement m'ont dit, mais ça me fait mal au cœur, personne ne peut savoir. Ah, j'ai besoin de prendre du recul en ce moment, je ne viens pas à l'église, du recul, le dimanche 2 heures par semaine, je me dis, tu peux prendre du recul tout le reste de la semaine. Quand les gens commencent à dire ça, croyez-moi, c'est pas bon signe. Parce que quand on est fatigué, je crois que c'est là qu'on doit avoir la liberté de dire à quelqu'un, prie pour moi. Moi, ce matin, on m'a dit, tout le monde m'a dit, ça va ? Non, je suis fatigué, priez pour moi. Je sais que vous le faites. Et Mme Loupiac, vous l'avez entendu dans sa prière, elle a prié pour son pasteur. Merci. On est fatigué. Dans le chapitre qui suit, oui, chapitre 23, vous le lirez, vous ferez votre culte, votre prédication. Il a soif. Dans le chapitre 23, il cite les hommes de David, et il va faire une expérience, c'est impressionnant. Il est dit qu'il a soif. Verset 15, vous voyez, il a un désir, il a soif. Il a soif, il va demander un truc, pas possible, et ce n'est pas de la comédie, c'est pas, il ne fait pas un caprice, ça exprime que quand on a soif, eh bien, il y a quelqu'un qui a payé pour nous. Est-ce que vous savez que Jésus a payé pour nous ? Il va faire, il veut de l'acide, il veut de l'eau de Bethléem, etc. Enfin, vous lirez l'histoire, je prêcherai dessus peut-être mardi, tiens. Mais vous méditez là d'ici et vous verrez ce que vous en avez retenu. Il y a des moments difficiles. Là aussi, il y a des géants, ils sont à Bethléem, ils sont chez lui, là dans son village. C'est terrible quand, dans notre propre cœur, dans notre identité, on se sent malmené. Vous lirez la suite. C'est des choses, vous savez, ça a été inspiré par le Saint-Esprit, tout ça, c'est pas un bouquin d'histoire. L'Ancien Testament, c'est l'histoire d'Israël. Oui, mais l'Ancien Testament, laissez-moi vous dire, c'est rempli d'histoires qui sont voulues par Dieu pour qu'on comprenne qu'à un moment donné, il y a des choses à réaliser. Oui, Dieu règne, il doit régner et il a donné la responsabilité à l'Église. Et l'Église ne doit pas fuir parce qu'il y a des géants, parce qu'il y a des moments difficiles. Vous avez vu, j'ai appuyé volontairement, il y a eu encore une guerre, encore un combat, encore. Et de toute façon, jusqu'à la fin, je ne vais pas vous faire peur, mais il y aura encore des luttes. Encore des combats, il y aura encore des mauvais jours. Mais frères et sœurs, soyons fortifiés et soyons là. Est-ce que je fais partie de ceux qui disent « Oh, il y en a marre, on fout le camp ?» Excusez-moi l'expression. Mais moi, je comprends ces gens-là, je ne les juge pas. Je ne les juge pas. Vous savez, à Chipotel, regardez, c'était quelqu'un à Chipotel. Il s'est suicidé. J'en ai parlé encore la dernière fois. Quand les gens n'ont plus d'espérance, c'est... Ils n'ont pas peur, en plus de l'enfer. Hein. Mais il y a des gens qui ont compris. Franchement, si je suis fatigué, je crois que ça vient de là, cette semaine. Parce que j'ai été peiné de voir la quantité de chrétiens qui n'ont pas compris. C'est peut-être ma faute. Je l'avoue, mais vraiment, je l'avoue. Qui n'ont pas compris qu'il fallait être à côté du Seigneur. De notre chef. Le Seigneur Jésus, il veut régner au travers d'hommes qui sont vaillants, de femmes vaillantes. Là, d'ailleurs, vous avez vu les vaillants hommes de David. Vous croyez qu'ils sont nés vaillants ? Quand ils sont nés, ils étaient meilleurs, ils sont sortis avec une épée à la main ? Quand ils sont nés, est-ce qu'ils sont sortis avec une épée à la main ? Ou avec un casque ? Avec écrit dessus, vaillants hommes ! Vaillants hommes du roi ! Non, ils sont nés comme les autres. Je lisais dernièrement dans un bouquin, c'est un bouquin chrétien, et il y a un gars qui s'arrête dans une ville et il pose la question à un habitant. C'est un gars qui faisait des sondages. Et il dit, dans cette ville, combien de grands hommes sont nés ? Alors le gars, il le regarde, il dit, dans cette ville, les gens qui sont nés, ils étaient tous petits. Et c'est vrai. Les vaillants hommes de David. Vous savez, ce matin, moi j'ai mes notes. Franchement, je ne pense pas que j'en ai bien besoin. Mais je crois que Dieu, il veut voir des vaillants hommes, des vaillantes femmes se lever, s'entraîner au combat. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force, toute puissance. Les gens qui n'étaient pas là, regardez du temps de David, du temps de... Tout le monde était paralysé. Paralysé. Goliath était là. Ils n'ont pas compris. Bon, Saül était... C'est vrai que Saül, ça n'allait pas trop. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir un leader dans l'église qui ne va pas trop. Mais notre Seigneur, lui, est-ce qu'il va bien ? Est-ce qu'il est digne que nous soyons avec lui, là ? Au moment le plus peut-être crucial où l'Église va être enlevée, combien de chrétiens ne sont pas prêts ? Combien font partie de ces mauvais hommes, de ces mauvais chrétiens qui ont fui parce qu'ils ont peur ? Ils ont peur de la prière, ils ont peur de on devrait dire, mais je veux être là, je veux combattre, je ne sais pas comment ça se terminera. Et alors, est-ce qu'ils ont risqué leur vie, ces hommes? Est-ce qu'ils ont risqué leur vie? Ben oui, ils ont risqué leur vie. Quand David était qu'un enfant, et que pour protéger un agneau sur 300, sur 400, je ne sais pas quelle était la taille de son troupeau, mais il avait, mettons, 300, 400 brebis. Non mais sérieusement, il a risqué sa vie pour un agneau. 385, 386, l'agneau de plus, l'agneau de moins, on ne va pas faire une histoire. Après tout, c'était qui le plus important? La vie d'un agneau ou la vie de David? C'est une question qu'on peut poser, oui ou non? Il a risqué sa vie, il a quand même combattu le lion. L'ours. Oui ou non? Pour un agneau. Il serait arrivé chez son père, il aurait dit, papa, tu sais, voilà, eh bien, les 300 brebis ont mis bas, voilà, il y a 600 moutons dans le troupeau. Il y en aurait eu 603, 604, franchement. Qu'est-ce qu'il aurait dit le père? Franchement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment on en arrive là? Parce qu'il y avait des centaines de bergers en Israël, des milliers de bergers. Mais Dieu les voyait tous. Et il a vu David. Et il a dit qu'il a choisi David. Alors vous allez me dire, mais il faut répondre à cette question-là, de qu'est-ce que c'est qui vaut le plus, la vie d'un mouton, d'un agneau, ou la vie de David? Mais la question, la réponse, elle est importante. C'est que notre vie, elle ne vaut pas grand-chose, tant qu'on n'est pas responsable. Et moi, je voudrais ce matin que nous répondions à cette prédication, parce qu'une prédication, c'est aussi un appel. Oui ou non? Et pourquoi dire, mais est-ce que je suis à côté de mon Seigneur? Ou est-ce que je viens là juste par intérêt? Parce qu'on peut être là par intérêt, parce que c'est bien. La paix de Dieu, est-ce que c'est bien? La paix de Dieu, est-ce que c'est bien? La joie de Dieu, la joie du salut, est-ce que c'est bien? Ben oui, c'est bien la joie de Dieu. La joie de Dieu, c'est une bénédiction. La bonté de Dieu, c'est une grâce, etc. La tendresse. Mais servir Dieu, c'est autre chose. Et je peux être là par intérêt et dire, tiens, mais c'est vrai, moi, je veux entretenir ma joie, c'est génial, j'ai la joie, les gens sont dans la détresse, les gens sont enténébrés, les gens sont en vrac, moi, j'ai la paix du Seigneur, youpi, merci. Est-ce que c'est bien la joie de Dieu? Ben, c'est clair. Et c'est pas interdit, et c'est tout autorisé à se réjouir, et s'il y a bien des gens qui doivent être joyeux sur la terre, c'est bien les chrétiens. Eux seuls. Mais le problème, ça ne devrait pas être nos intérêts. Merci Seigneur pour tous les intérêts. Bon, ça, n'y revenons pas. Mais les intérêts du roi. Qu'est-ce que je fais pour mon roi? Eux, ils ont décidé, on donne notre vie pour le roi. Parce que c'était important que Jésus règne, que David règne. Est-ce que nous voulons que Dieu règne dans cette ville perverse de Toulouse? Ou est-ce qu'il faut laisser abandonner les pécheurs? Après tout, c'est des homosexuels, c'est des lesbiennes, eh bien, qu'ils se débrouillent. Ils ont attiré la colère de Dieu, c'est leur problème. Oui ou non? Est-ce que c'est vrai? Vous savez, à Katmandou, c'est une ville corrompue par le tourisme sexuel. Et laissez-moi vous dire, écoutez, là, ne me dites pas que je suis légaliste. Lisez la Bible et vous verrez que sur la terre, on fait tout pour attirer la colère de Dieu. C'est très résumé, mais laissez-moi vous dire que c'est vrai. Alors, les vaillants hommes, les vaillantes femmes, Dieu les cherche. Tu cherches, il a cherché, il a vu David, il a dit, tiens ce jeune homme, il risque sa vie pour un mouton, il risque sa vie pour un agneau. Eh ouais, mais ça indique combien on peut être responsable. Et aujourd'hui, vous entendez, même parmi les chrétiens, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela, j'ai droit à ça. Ah ouais? Moi, je me souviens de ma maman qui disait toujours, elle disait, je ne l'ai jamais entendu dire, c'est mon droit. J'ai tout le temps entendu ma mère dire, et peut-être ça m'a marqué, c'est mon devoir. Toute ma vie, j'ai entendu ma mère qui disait, ça, c'est mon devoir, je le fais. Mes frères et sœurs, est-ce que ces hommes qui ont choisi, parce qu'ils ont compris, est-ce que nous ne voudrions pas être de ces hommes, de ces femmes qui vont dire, mais il y a un roi. Bien sûr que j'ai la joie du salut, j'ai le pardon. Quand je commets un péché, je peux de suite m'approcher du Seigneur et obtenir le pardon de mes péchés. Ce matin, moi, quand on chantait, mes péchés sont pardonnés. Mes péchés ont disparu. Vous l'avez chanté, mes péchés ont disparu? Vous vous en souvenez? Vous l'avez chanté, cette troisième strophe du 55 dans les ailes de la foi? Vous l'avez chanté? Mes péchés ont disparu. Vous avez pu le chanter? Vous avez pu le chanter? Est-ce que vous savez le bonheur que c'est de pouvoir chanter « Mes péchés ont disparu » ? Mais c'est bien tout ça. Mais je vous assure, mes frères et sœurs, quand j'ai préparé cette prédication, moi j'étais dans mon bol avec le charbon. J'étais là, moi, cette semaine. Je me disais, puisqu'on parlait du feu la semaine dernière, j'étais là, moi j'avais mon bol de charbon ardent sur la tête. Et Dieu ne va pas nous faire ramener le feu pour le plaisir d'avoir du feu. Mais dans l'assemblée, et j'en ai honte, parce que je sais que c'est en partie dû aux serviteurs de Dieu que nous sommes, de ne pas avoir communiqué cette pensée, à savoir que Dieu doit régner. Et il règne avec une église qui est remplie de force, parce qu'on est fortifié, pas par notre force, notre force ça ne sert à rien, mais la force du Seigneur qui nous renouvelle. Je suis fortifié par le Seigneur et je suis capable de protéger l'intérêt du roi. Et c'est pour cela que moi je le dis, ne pensez pas que c'est moi qui le fais, parce qu'en plus ça m'est égal. C'est peut-être même pas bien. Mais après tout, c'est le problème de chacun. De réaliser l'importance de la place que Dieu veut qu'on ait dans la prière. Dans l'église, quelqu'un me dit l'autre jour, moi je m'en vais dans telle église parce que, voilà, le Seigneur m'a montré. Eh bien c'est bien, mais dans cette église, soyez un intercesseur. Dans l'église où Dieu vous a placé, les jeunes, vous qui venez de prendre le baptême ou vous qui l'avez pris depuis longtemps, est-ce que vous êtes un intercesseur? C'est ça, combattre l'épée à la main. Et ces hommes, ils avaient eu l'exemple. Et nous, on n'a pas eu l'exemple avec Jésus. Il n'a pas tout accompli, le Seigneur. Est-ce qu'on peut être des vainqueurs jusqu'à la fin? Est-ce que c'est écrit quelquefois dans la Bible à celui qui vaincra? L'apôtre Paul, il va même jusqu'à dire, nous sommes plus que vainqueurs. Pas vainqueurs, plus que vainqueurs. C'est cette affaire. Et ces quatre vaillants hommes, eh bien, quand il y a eu cette guerre, eh bien, ils ont dit à David, écoute David, toi, tu dois régner sur le trône. Et notre Seigneur, il doit régner. Notre Seigneur, il doit agir. Mais à condition qu'il trouve des gens qui ne sont pas là que pour leur intérêt. Alors je redis ce que j'ai dit, à savoir que c'est bien la joie, c'est bien la paix. C'est clair, Dieu le donne. La joie, la paix, la tendresse, la bonté, la grâce, la miséricorde et tous les attributs de Dieu qui n'en finissent pas. Mais pourquoi je suis ce matin dans la maison du Seigneur? Pour mes intérêts? Parce que je n'ai pas envie d'aller en enfer et je m'accroche à mon salut. C'est déjà bien, moi, ça me va. Mais ce n'est pas comme ça que l'œuvre de Dieu se fera. L'œuvre de Dieu, elle se fera avec des gens qui vont décider de s'armer, de se fortifier. Parce que nous, on n'a peut-être pas des géants de 3 mètres de haut, mais on a des dominations, des principautés. C'est écrit, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang. Mais c'est pire encore, parce que c'est des ennemis qu'on ne voit pas. C'est des choses qu'on ne discerne pas si le Seigneur ne nous le montre pas. Combien de gens ont perdu la foi avec des amis? Des amis entre guillemets, parce qu'ils étaient païens. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à combattre contre les réphidim. Nous avons à combattre contre des ennemis plus puissants. Mais tout a été accompli. Et si nous nous armons, et si nous prenons toutes ces armes, eh bien nous pourrons faire en sorte que dans l'église où nous sommes, le Seigneur règne. C'est pour cela que ce matin, ça peut être un temps de victoire. Et de dire, oui, je partirai avec mon bol, mon pot de terre pleine de braises. Parce que je veux remettre le feu dans ma maison. Je veux que ma maison soit éclairée. C'était le seul moyen presque d'éclairer une pièce. C'était le seul moyen de refaire à manger. Est-ce que dans votre maison, vous voulez faire du bien? Ou est-ce que vous fatiguez ceux de votre maison? Il y a des familles, discuter avec les gens, ils vous diront, mais moi, mon père, il me fatigue. Même pareil, il me fatigue. Bien oui, s'il n'y a pas le feu. Alors on va se recueillir quelques instants. Vous lirez ces deux ou trois chapitres. Pour mardi soir, tiens, vous les lirez. Parce qu'on continuera sur cette faim, sur cette soif, sur cette fatigue. Mais vous savez, quand je pense qu'on doit donner à un ennemi la possibilité de se réchauffer, de retrouver la lumière, la chaleur dans sa maison, nous qui sommes frères et sœurs, je voudrais demander à ceux qui vont prier tout à l'heure, Monsieur de Dieu, Monsieur Blanc, Jonathan, Monsieur Sinarinzi, d'être vraiment en bénédiction par la prière. On va d'abord prendre le pain et le vin. Jonathan D'Agostino, s'il te plaît, est-ce que tu peux choisir quelques frères? Que ce soit l'occasion de dire, Seigneur, tu vois, je ne veux pas venir dans ta maison juste pour les intérêts, les avantages. Et il y en a, il y en aura toujours. Même si vous décidiez de ne pas devenir vaillant, croyez-moi que Dieu ne va pas vous punir. Il vous aime, vous êtes son enfant. Ils ont resté 40 ans dans le désert et la Bible dit que le crochet qui les suivait, c'était Christ qui a pourvu. Leurs sandales ne se sont pas usées. Dieu a pourvu, malgré le fait qu'ils sont tous morts dans le désert. Si vous voulez rester loin du combat, restez loin du combat. Ce n'est pas moi qui dois vous obliger. Mais je sais que pour que le roi continue de régner, il faut des vaillants hommes, fortifiés à tous égards. Et plusieurs parmi nous ont abandonné la foi, abandonné le combat, ont tourné le dos. Bénissez le Seigneur si vous êtes là ce matin, si vous avez la joie, si vous pouvez chanter « Mes péchés sont pardonnés ». Vous êtes heureux si vous allez vous lever dans quelques minutes pour prendre le pain et le vin. Mon Dieu, soyez bénis. Mais y a-t-il des Abishai parmi nous? Abishai, ça veut dire père de la force. Il était revêtu de la force du Seigneur. Le fils de Goliath a dû s'en rendre compte. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dit, moi je veux être fortifié. Je veux prendre mon pot de braise. Je veux le feu dans ma maison. Peut-être le pasteur est fatigué. Je veux être un intercesseur. Parce que dans l'église, il faut qu'on soit renouvelé. Pas grave d'être fatigué. Tu es fatigué, ça ne l'a pas empêché de régner. Mais parce qu'il y avait des amis. Ce matin, je crois qu'il y a des amis à côté de nous. À côté de vous, est-ce que tu es un ami? Oui, tu vas prier pour moi. C'est ça l'église, mes frères et sœurs. Ce n'est pas l'association des bons frères du quartier. Alors vous qui êtes baptisés par immersion, vous qui aimez Jésus, vous qui avez donné votre cœur à Dieu, levez-vous à votre place. Avec respect, avec joie, levez-vous maintenant. Si vous n'êtes pas converti, si vous n'êtes pas encore baptisé, mais recueillez-vous avec respect également et dites, Seigneur, c'est certainement une des dernières fois où je ne prends pas le pain et le vin parce que je veux faire partie non seulement de ta maison, mais je veux faire partie de ces vaillants, de ces vaillantes qui auront compris l'importance que Dieu doit continuer à régner. David devait continuer à régner. C'est pour ça qu'ils étaient là. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris que Jésus doit continuer à régner à Toulouse? Alors merci Seigneur pour tous tes avantages. Ça c'est dans l'éternité, on te remerciera pour toutes ces choses. Mais Dieu cherche un vaillant, une vaillante, qui saura combattre tout seul, toute seule, mais qui aimera combattre avec les autres. Ils étaient là. Ils avaient eu un exemple, nous aussi on l'a eu. Ce n'est pas l'exemple de David qu'on a, c'est l'exemple de Jésus. Alors que ce moment de Sainte-Seine et de prière soit vraiment un moment de victoire, de délivrance et de guérison, et de décision pour permettre aux frères et aux sœurs d'aller plus loin dans l'œuvre de Dieu.